Alors Daniel Lalou, vous êtes à Arras pour la représentation de la pièce de théâtre Monsieur de Pourceaugnac, mais on vous a vu, on vous voit au théâtre, on vous voit aussi au cinéma, à la télévision, aussi dans le domaine musical, mais on en parlera un peu plus tard. Alors votre parcours, votre œuvre, vous empruntez un petit peu les chemins de traverse. Qu'est-ce qui vous fait marcher?
Moi, j'aime bien les aventures. Puis je suis le genre de type, on sait pas très bien qui c'est, mais quand tout d'un coup on le voit à la télé, on le voit jouer avec un tel, la musique. Oui, je n'aime pas beaucoup. J'aime bien varier les plaisirs. Hein. Je ne suis pas enfermé dans un statut, ni dans une image, une chose comme ça. J'aime bien le changement.
Peut-être la définition d'un véritable du saltimbanque, peut-être une espèce qu'on voit rarement à l'heure actuelle, quoi, c'est dans.
Oui, je pourrais dire que même je suis une espèce en voie de disparition, quoi. Que je suis le seul survivant d'une toute une bande, évidemment, Jean-Pierre Santier, tout ça, ces gens-là. Oui, c'est un choix plus, c'est un choix de vie plus qu'un choix artistique. Hein. C'est un choix mental, je dirais. Hein. C'est un choix de liberté, quoi. C'est un choix de refus, de se laisser aller dans de se laisser enfermer dans les contingents, les trucs, où après on se flingue, où on a mal au cœur, où on devient alcoolique et désespéré. Donc moi non, 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 moi ça va. J'aime bien les aventures, quoi. J'aime bien jouer avec, j'aime bien découvrir des gens que je connais pas, quoi. Je suis partant pour le. En ce moment-là, dans cette pièce, Monsieur de Pourceaugnac, où je joue avec des. Je ne connaissais personne, dont Molière évidemment. Alors je joue avec des musiciens de musique baroque, qui sont des gens formidables, qui ont fait un choix, qui sont tous des premiers prix de conservatoire et qui ont fait un choix de faire que de la musique baroque. Alors là-dedans, il y a japonais, il y a italien, espagnol, une autrichienne. Et c'est très intéressant, quoi. Moi, j'apprends plein de trucs, quoi. Puis leur Molière jouer, parce que tous ces musiciens sont complètement intégrés dans la dramaturgie. Alors, ils jouent des petits rôles de médecins. Alors, jouer Molière avec l'accent japonais, l'accent québécois, l'accent italien, l'accent autrichien, c'est assez rigolo, quoi. Moi, j'adore, moi.
Mais alors justement, comment vous êtes venu à jouer dans cette pièce? Comment on vous a contacté? Comment vous connaissiez la personne qui fait la mise en scène?
Non, pas du tout. Elle m'avait vaguement proposé à une époque. Ben voilà, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je fais beaucoup de théâtre. J'ai la chance de travailler dans les circuits, enfin les théâtres subventionnés, avec des metteurs en scène qui font du théâtre contemporain et qui m'utilisent non pas comme. Qui m'utilisent d'une manière très variée. Hein, ils me font jouer des trucs très, très différents. Alors, quelquefois, je tombe sur des metteurs en scène très intello, tout ça. Et moi, j'aime bien m'adapter. Et cette metteur en scène m'a vu jouer dans une pièce de Lars Norén, d'un auteur suédois, une pièce qui durait 6 h 30, que j'ai jouée au Théâtre national de Strasbourg chez Martinelli, qui a été reprise dans un lieu de Paris, qui était un très gros spectacle qui durait 6 h 30, où c'était sur les drogués, les SDF, alcooliques, qu'on voit dans la rue, qu'on ne sait pas, ils ne savent plus très bien qui ils sont, ni ce qu'ils disent et tout. Et moi, j'ai joué un de ces gens-là. Donc, elle m'a vu jouer là-dedans, et de fil en aiguille. Non, elle m'a vu jouer dans. Non, non, pas là-dedans, mais dans notre pièce. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis genre, on me voit jouer, bon, ça m'arrange, j'intéresse les gens, et on m'engage, quoi. Voilà. On m'engage sur ce que je fais. Donc, elle a pensé à moi pour jouer le rôle d'Oronte dans la pièce de Monsieur de Pourceaugnac, où je dors sous le temps. Je suis toujours sur scène et je dors sous le temps. Ça me convient parfaitement. J'ai mon grand âge, c'est parfait.
Alors c'est un Molière un peu décalé quand même. C'est une pièce de Molière qu'on n'a pas la coutume de voir. Un Molière.
Ah oui, mais complètement, oui, Monsieur de Pourceaugnac, oui, parce que d'autant plus dès que la mise en scène, c'est pas du tout conventionnel, puisqu'il y a une chorégraphie, il y a un dispositif scénique. C'est pas. Le personnage, nous sommes tous moi je suis en chemise de nuit, les musiciens sont en robe blanche, de mariée. Bon, on sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, c'est très beau à voir. Et monsieur, il y a le seul personnage en costume d'époque, c'est Monsieur de Pourceaugnac, qui est joué par une femme. Alors, à l'origine. Elle était jouée par Nathalie Nerval, qui a âgé de 80 ans, et qui malheureusement est malade, donc elle a problème au poumon. Et donc elle est remplacée au pied levé par Sandrine Anglade, qui est une jeune metteur en scène impétueuse de 33 ans. Alors c'est assez bizarre, quoi. Mais enfin, ça fonctionne, la structure est faite de telle façon que ça fonctionne malgré tout, quoi. Parce qu'en plus, la musique, il y a beaucoup de musique, et les musiciens remarquables, quoi, vraiment.
Ouais. On continue avec la musique et le théâtre d'Arras.
Alors oui, au départ, on peut dire que ce qui a motivé cette interview, c'est le fait qu'il y a, on peut dire l'année, hein, il y a un petit 40 ans, on va dire, puisque c'était en 70. Tu étais déjà venu ici à Arras, que j'étais dans la salle ce soir-là pour une soirée complètement différente, puisque c'était de la musique. Et à l'époque, tu faisais partie du groupe Gong, qui se produisait ici avec... un autre groupe français qui avait du succès à l'époque, qui était Triangle, et puis la première formation de Rory Gallagher, à savoir Taste. Et puis donc, dans Gong, il y avait un grand monsieur qui jouait du tambour et qui déclavait des choses sur, parlant de Napoléon, il me semble, à l'époque, c'était Victor Hugo, oui, voilà. Et bien, c'était tout. Alors, bon, est-ce qu'on peut se demander, ça fait quand même très, très bizarre de te retrouver aujourd'hui dans Molière, quoi, pour les gens qui, disons que ce n'est pas un parcours traditionnel. Et ben, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est comment déjà tu en étais venu à rencontrer quelqu'un comme David Allen, qui à l'époque sortait de Soft Machine, et puis ce qui t'est resté de cette époque-là, je veux dire, ton rapport à la musique, bon.
J'ai, quand j'étais adolescent, j'ai voulu toujours faire du spectacle et jouer de batteur de jazz. Donc j'ai appris la base technique au conservatoire de Reims. Ce n'était même pas un conservatoire, c'est une école de musique de province, où j'ai appris le tambour pour la technique. Tous les percussionnistes passent par le tambour, pour le roulement, pour avoir une certaine technique dans les mains. Et j'étais tombé sur un type incroyable, un professeur qui s'appelait Monsieur Lucien Fouillot, ancien chef tambour de la garde républicaine de Paris en retraite, et qui a été un type passionnant, quoi. Passionné par son instrument, mais un peu militaire, quoi. C'était la vieille école, quoi. Il nous faisait démonter et remonter le tambour, la peau et tout ça, et on faisait papa, maman, et tous les cours étaient mélangés. Et en même temps, je faisais du théâtre, je ne faisais pas très bien, je me cherchais, quoi. Puis à 17 ans, je suis parti à Paris. Je jouais de la guitare aussi, j'ai fait des chansons, j'étais chanteur rive gauche, j'ai enregistré un disque carré chez Barclay, de forme carré, qui a été interdit à la radio, pour indigence de texte, parce que je citais Malraux, j'avais une chanson qui s'appelait « Odorez-moi ». Et j'ai raconté que Reims était envahi par les Chinois, parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur des Chinois, c'était dans les années 64, ça. Orchestré par Michel Colombier, avec Michel Portal d'ailleurs au sax, qui était à l'époque un requin de studio, comme il appelait, un musicien de studio, c'est-à-dire qu'il pouvait gagner sa vie, jouer les arrangements. Et donc ce disque, de fil en aiguille, alors j'étais chanteur rive gauche, et puis j'ai eu l'idée de faire avec ce tambour, pour varier un peu, faire un numéro de tambour. Alors j'ai fabriqué un tambour en bois, un beau tambour en bois que j'ai toujours, qui sonne vachement bien, avec un chapeau de gendarme en papier. J'ai raconté la technique, les patafla, ça faisait dire les gens qu'on est le cabaret. Et puis je suis passé après, on faisait plein de choses à l'époque, hein. C'était très libre en fait, parce qu'il y avait moins, on était beaucoup moins que maintenant à faire des conneries, donc on pouvait se permettre de faire... on était très polyvalent et puis on pouvait monter les choses vite fait. On n'était pas obligé de remplir des dossiers maintenant quand on veut faire une œuvre personnelle.
C'était un peu aussi les débuts de Jacques Higelin qui était un peu dans cette mouvance-là, je pense. Enfin, je pense qu'on peut rapprocher, qui lui aussi faisait de la chanson dans les cabarets, qui faisait beaucoup de théâtre de rue, et puis même du théâtre un peu, puisqu'il était passé aussi au théâtre d'Arras en 67, à ses débuts. Donc,
Oui. Absolument, avec Brigitte Fontaine, d'ailleurs, c'est pour ça que... Bon, alors, moi, le tambour, bon, OK. Et puis, je suis passé à la vieille grille, hein, qui était le berceau un peu de Higelin, Fontaine, Rufus. Et moi, je chantais, j'étais à l'époque, j'ai chanté des chansons. Et puis, je vois un Anglais, qui à l'époque campait avec sa femme, Gilly
Smith.
Hein ?
Gilly Smith,
dans un camping-car, avec sa guitare, tout seul, sa guitare électrique, et une banane. Et nous passions à la vieille grille. Moi, je passais avant lui. À l'époque, il y avait des, on était 5 programmés, quoi. Et j'avais à l'époque, j'avais fait traduire 2 ou 3 chansons en anglais. Parce que je ne parle pas anglais, mais enfin, j'avais une amie qui parlait anglais. Donc, je lui ai demandé pour rigoler de faire. Et j'avais une chanson qui s'appelait Le Gang des Gongs, d'où le nom de Gong. Le Gang des Gongs, oui, oui. Le Gang des Gongs, qui s'appelait Le Gang des Gongs. Donc, c'est une espèce de vieux coloniaux qui sont pourchassés par la maladie, enfin, un truc dans les rues, enfin, des clochards célestes. Et au lieu d'être présenté, j'avais demandé à David Allen, écoute, quand je sors de scène, je mets une bougie sur les manches de ma guitare, je te file le texte du Gang des Gongs en anglais, et on se croise dans la salle. J'avais fait une petite mise en scène. Je sors en chantant le Gang des Gongs, et lui, il me croisait pour prendre ma place sur la scène en chantant la version anglaise. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Alors Gong, ça lui a fait tilt. Il m'a dit, Daniel, est-ce que je peux prendre ? Bien sûr, pas de problème. Et après, j'ai travaillé avec lui. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que j'ai participé au début du Gong, qui était assez chaotique, avec Didier Malherbe, Christian Triche, le batteur Wari, qui s'est suicidé d'ailleurs. Oui, oui. Et c'était assez. Moi, je suis plus d'un coup passé de la chanson riff gauche, poétique. Enfin, j'étais pas poétique, enfin, j'étais considéré un peu comme subversif. Bon, à l'époque, hein, je veux dire, maintenant, ça fait sourire. Ah, une musique anglo-saxonne. Je n'étais pas d'ailleurs tout à fait. J'étais pas très rock à l'époque, j'étais encore très jazz, quoi. Jazz rock, quoi. Et donc, mais ce type me plaisait, quoi. Et c'est pareil, c'est le goût de l'aventure, donc je l'ai suivi. Et puis, j'avais eu l'idée, avec les guitares électriques derrière, de déclamer Waterloo de Victor Hugo avec mon tambour. Avec ce fameux tambour qui m'a... Je traîne ce tambour comme une casserole, en fait. À chaque fois, par exemple, là, j'ai joué, je sais pas, à Strasbourg, dans une pièce japonaise... nouvelle du plateau S de Horiza Hirata, un acteur japonais. Et il y a le directeur que je connais dans le temps du rond-point du théâtre du rond-point, Jean-Michel Ribe, qui vient voir le spectacle. Et puis à la fin du spectacle, il me dit bonjour. Il me dit tu joues toujours du tambour. L'air de dire tu joues toujours du tambour, j'espère. Moi, je croyais qu'il allait me faire des compliments sur mon jeu d'acteur. Que je progressais, etc. Non, non, tu joues toujours du tambour. Alors ce tambour, sans arrêt, et ici encore, dans mon petit Pourceaugnac, on me demande de jouer du tambour, ce que je fais avec plaisir, mais bon, il a fallu que j'adapte la technique, le frapper à Lully quand même, puis avec les autres musiciens qui étaient entièrement d'accord et qui sont ravis, quoi, vraiment.
Alors, la musique, vous avez poursuivi en musique, puisqu'on vous a trouvé aux côtés de Marion Brown, saxophoniste de jazz, bon, on pourrait dire de l'époque du free jazz même. Ça, encore une autre aventure, plutôt surprenante quand même.
Oui, alors, les gongs, je suis resté un an et demi, mais j'en avais un peu marre, parce que ils étaient tous trop sous pétard, quoi. À l'époque, j'étais pas encore dans le coup, je refusais d'être hippie. Ils m'ont offert des petits trucs, des vestes avec des franges. Moi, je refusais de me déguiser en hippie à l'époque. J'ai envie de faire comme tout le monde. Hein. Donc, alors, puis ça marchait plus. En fait, il y avait des problèmes. David, ils ont toujours des problèmes. Les musiciens ont toujours des problèmes avec les autres musiciens. Donc, après, j'ai joué une pièce d'avant-garde américaine à Aix-en-Provence chez Antoine Bourseiller en 70, 69. C'est un peu bon à mes époques. Hein. C'est tout à fait après Gong. Et Antoine Bourseiller a eu l'idée, un des premiers en France, c'était les débuts du free jazz américain. C'était les premiers, Marion Brown est venu le premier avant l'Art Ensemble de Chicago à Paris. Reniflant les derniers relents de mai 68. Parce que, attention, c'était quand même des révolutionnaires, les Noirs, les Blacks américains qui arrivaient, c'était les Black Panthers, mais ils trouvaient que la France, tu vois. Et j'ai sympathisé immédiatement avec ces gens-là, à Bar Philippe, parce que je ne connaissais pas. Moi, j'étais comédien, hein, je jouais le truc. Et c'est pareil, je leur ai montré ce que je faisais. Et puis, ils ont invité chez moi à la campagne. J'habitais en banlieue à l'époque. Marion Brown, il y avait Steve McCall, Ambrose Jackson. Bar Phillips n'était pas avec nous, mais il y avait Günther Ampel, clarinettiste basse de allemand, le seul allemand, le seul blanc qu'il y avait avec cet orchestre. Et je ne sais pas, ils m'ont trouvé sympa. Alors, ils m'ont proposé de venir avec eux en Allemagne, une tournée dans les universités. Et là, j'avais l'impression de jouer. C'était très. Je découvrais le monde des jazzmen professionnels, où il faut jouer. Il faut lui donner une énergie. C'est pas comme les gongs où on est derrière un micro, il y a le public qui est déjà acquis, il y a tous les supporters, où c'est vous soufflez un micro, ça. Puisque là, c'était vraiment fait donner de soi-même, quoi. J'ai joué de la derbouka et du tambour. Et puis il m'avait laissé un break, enfin de 10 minutes pour m'exprimer, où j'explosais avec des phrases un peu ouvrez les rideaux, crevez les fenêtres, il y a la musique ici, la musique, la musique. Je jouais avec la voix, comme ça, avec le tambour, avec le batteur, avec les sax qui m'accompagnaient, c'était vachement bien. Il y avait un disque de ça. Il y a un disque de ça qui a été enregistré à Wurzburg en 70. Et ça, c'était aussi très intéressant, mais extrêmement fatigant, quoi, vraiment.
Alors, on a parlé théâtre, on a parlé musique. Bon, on n'a pas épuisé le sujet, mais on pourrait parler aussi cinéma.
Ouais,
alors,
voilà, parce qu'après, il est vrai qu'on t'a vu aussi beaucoup faire des apparitions dans de nombreux films. On va dire, bon, évidemment, l'an 01, mais il faut dire que dans l'an 01, il y avait pratiquement tout le monde. Hein, donc, mais également des films de Pierre Richard, des comédies, bon, un peu dans tous les styles également. Mais malgré tout, films de Milos Forman, films de Tony Gatliff. Et puis, moi, il y a un film qui m'avait vraiment marqué à l'époque, mais je ne savais absolument pas de qui était ce film, quoi que ce soit. C'était Un bruit qui court. Film qui ressemblait vraiment à rien de ce que j'avais vu, que j'avais découvert un peu par hasard dans un ciné-club au moment de sa sortie, et que je n'ai jamais réussi à revoir depuis, parce que je ne le vois pas programmé à la télévision. Je ne pense pas qu'il existe pour le moment dans le commerce en DVD ou en VHS. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est un film avec lequel tu as un rapport un peu plus personnel, un peu plus particulier, et que donc c'est peut-être ce qui expliquait cette différence.
Oui, parce que voilà, je suis acteur. Hein. Au début, pour moi, être acteur, c'était se lever tard et c'était alimentaire. Si je dis ça, tout le monde va hurler. Mais pour moi, je fais du théâtre pour des questions alimentaires. Parallèlement, je fais des trucs perso. Bon, comme c'est un peu uberalu, je gagnais ma vie un petit peu. Mais enfin, disons que j'ai fait du cinéma parce que je connaissais Pierre Richard. Par hasard, comme ça, avec des petits rôles. Mais avec Jean-Pierre Santier, là, j'ai une grande histoire, parce que nous avions, c'est pareil, à la Vieille Grille, nous étions rencontrés, après les gongs, hein, j'avais fait un one-man show à l'époque qui s'appelait Le Ver solitaire, et lui, il passait en même temps que moi, et il m'avait demandé de faire d'écrire une pièce avec lui. Lui, il m'a dit, il rêvait de jouer avec une chèvre. J'étais un mec marrant, hein. Alors, je lui dis, puis alors, on a trouvé une idée, et donc on a fait un spectacle qu'on a joué à La Tempête, au Théâtre de La Tempête, à l'époque de Jean-Marie Serrault, à la fin de la vie de Jean-Marie Serrault, malheureusement. Un truc en tôle, enfin, là, c'était pas le Théâtre de La Tempête actuel. Le spectacle s'appelait Le Coït interrompu. Le titre était très mal choisi, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des profs qui devaient nous voir, mais. C'est un film pour les enfants des écoles, pour les étudiants. C'est formidable, cette histoire de deux hommes abandonnés par la société qui se reconstruisent, qui ne savent même plus ce que c'est qu'une femme, et qui, à travers une chèvre, qu'on leur envoie, que le ministère du Labeur leur envoie avec une étiquette au cou marquée « vache ». C'est là, il y avait toute une critique de la bureaucratie. Malheureusement, avec le titre, on peut pas, à l'époque, ça existe encore. Hein. Et on était même cité à l'Assemblée nationale à l'époque de la loi Veil. Vous vous rendez compte, oui. Et là, nous avions une très belle affiche de réserve, d'ailleurs. Et nous avons eu l'idée, d'après cette pièce, de faire un film qui s'appelait Un bruit qui court. J'avais déjà travaillé avec Santier sur une adaptation de son scénario, Le Jardinier, qui a eu le prix Louis Deluc. Et j'ai joué là-dedans aussi. Puis il m'a proposé de faire ce film avec lui, co-réalisateur et co-auteur et comédien. C'était une grosse aventure. Alors, ce film, il est passé au Saint-André-des-Arts. Il n'y a pas eu de distribution parce qu'évidemment, il est particulier. Sentier est mort. C'était le producteur, mais avec pas de sous, il a eu beaucoup des dettes. Et puis, évidemment, sa femme conserve le film, mais n'a pas envie de le. Pour l'instant, il n'y a pas de. On le voit nulle part. C'est un film culte. Tout le monde en parle. Même ceux qui ne l'ont pas vu le trouvent génial. C'est souvent comme ça, les films cultes. Moi, je trouve ça rigolo. Et Le Bruit qui court, effectivement, peut-être qu'il va ressortir un jour. Peut-être que. Je n'en sais rien. Moi, je respecte tout à fait les. La femme de Sentier. Je ne garde rien moi, dans le passé. Hein. J'ai même pas de photos, rien. C'est marrant. J'ai des souvenirs, mais c'est un film. C'est un film. On l'a revu il y a 4-5 ans parce qu'il y avait une amie de la nièce de Charlotte Maury, qui est la femme de Sentier, qui connaissait la direction du ciné-club dans la Creuse. On a fait une progression de ces films. Mais maintenant, je ne sais pas ce que ça devient, quoi.
À l'époque, c'était quand même passé dans les ciné-clubs au moment de la sortie, quoi. Moi, je l'avais vu. Bon, c'est vrai que ça m'avait quand même marqué. Alors, je me rappelais de ces deux types dans la campagne. Alors, au moment où tu le disais, l'histoire de la chèvre et tout, ça me revient. Mais bon, enfin, c'est vrai que c'était un genre de film aussi qui détonnait complètement, quoi, avec ce qu'on voyait à l'époque, qui pouvait un peu faire penser à certains films suisses. À l'époque, il y avait le cinéma suisse. Bon, je pense qu'il y a certains films de cinéma-là qui pouvaient faire partie de ce courant-là. Mais c'est vrai que moi, là, quelque part, je t'ai quand même retrouvé. Je veux dire, bon, voilà, là, je me retrouve, je me dis, là, c'est le Daniel Lalou que je...
Bon. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, quand même, de temps en temps. Quand même, de temps en temps, je reviens moi-même. Mais bon, il faut bien gagner sa vie. Mais je n'ai pas de honte hein, à jouer dans des films comme ça, parce que je rencontre des gens quand même intéressants. Hein. Moi, j'ai toujours tenu à... Bon, quelquefois, maintenant, bon, j'arrête un peu. J'ai fait moins de trucs à la télé, des conneries, quoi. J'ai fait des Maigrets, c'est rigolo, j'ai des rôles. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des rôles, des personnages, quoi, à défendre, quoi. Et c'est vrai que ce film, Le Bruit qui court, donc, il est sorti au Saint-André-des-Arts, en 83, où il est resté très, très longtemps, dans un seul cinéma, chez Diamantis, qui est un des derniers grands directeurs de cinéma indépendant. Et puis, il était dans les ciné-clubs, effectivement, un peu partout en France. Et oui, ce film, les gens qui l'ont vu, trouvaient ça formidable, quoi, malgré les imperfections. Alors, évidemment, c'est un film atypique, puisque on a tourné ça en Bretagne, à l'île de Groix, en pleine côte sauvage. On a passé des tentes de parachute, enfin, on s'est battu avec des éléments, enfin, c'était complètement dingue. Il fabrique ces deux personnes. Voilà, ces deux personnes. Donc, en résumé, le ministère du Labeur a envoyé à une époque deux personnages, deux employés sur une île déserte pour bâtir les éléments d'une fabrique de boîtes de camembert. Donc, pour faire du fromage. Donc, ils ont commencé à faire des boîtes de camembert. Donc, on les voit tailler les bouts de bois, faire des copeaux, qui ont des boîtes de camembert. Il y a des amoncellements de boîtes de camembert. Et puis, le ministère du Labeur a complètement oublié l'existence de ces deux personnages qui sont restés livrés à eux-mêmes. Donc, ils se sont minéralisés avec la mer, avec les roches. Ils se sont laissés pousser la barbe. Ils sont pris pour des grands prêtres. Ils ont complètement perdu la mémoire, leur identité. Il y en a un des deux, moi en l'occurrence, qui avait un vieux dictionnaire Larousse dans lequel il retrouvait quelques phrases, mais ils ne comprenaient plus la signification, donc ils avaient un échange de propos extrêmement distingué, comme peut-être suffirait-il, faudrait-il, avec des synonymes, serait-il de bon aloi ou de... Et puis l'autre, je recherchais une créature différente d'eux, en l'occurrence la femme, parce qu'ils n'avaient plus tellement, ils étaient complètement asexués, ils ne savaient plus qui ils étaient. Et un jour, on retrouve leurs traces. Il y a un hélicoptère qui les survole, et un avion. Ils se remettent au travail, ils sont culpabilisés, donc ils se remettent au travail, ils croient. Et il y a le ministère du Labeur qui parachute sur l'île deux personnages, deux employés, Titi et Tata. Titi et Tata parce que ce sont des gens qui s'expriment en morse. Il y en a un des deux qui avait un appareil de morse dans le dos, ils ont envoyé des messages au ministère du Labeur dans un continent quelque part, titi, titi, ta, 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 et pour pas qu'on ait, pour qu'on les exprime, titi, ta, 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 titi, ta, 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 ta. Et ils ont essayé de remettre ces deux individus au travail, donc on leur a parachuté tout un amoncellement des chiottes hygiéniques, une fourche, un fusil et une chèvre, et sur une treilleuse électrique. Mais une treilleuse électrique a monté A dans B, B dans C, comme on remonte un truc qu'on achète, qui était pour une vache, parce que on voulait leur parachuter une vache, mais ils se sont trompés. Au lieu d'une vache, ils ont leur balancé une chèvre. Mais sur le coup de la chèvre, c'était marqué, vous avez dans votre possession un mammifère, son nom est vache. Et eux, c'est considéré que c'était une vache. Mais en France, ils ont regardé le dictionnaire, ils ont découvert que c'était une chèvre. La douceur de cette chèvre leur faisait penser naturellement à une créature autre. Donc, ils ont construit, en voilant la chèvre, une espèce de femme bizarre, avec des trucs que rejetait la mer, des algues, des bouts de ferraille, etc. Et puis, on les arrête dans leur recherche parce qu'ils pourraient le remettre au boulot. Ouais. Puis, ce qui est très important, on leur a parachuté aussi un fusil et une fourche. Et l'un qui avait le fusil devait surveiller celui qui avait la fourche. Et tout ça avec des étiquettes. Vous avez en votre possession un instrument avec des dents, son nom est fourche. Il sert à manier le fourrage. Vous avez en votre possession une arme à feu nommée fusil. Son nom est fusil. Celui qui a le fusil est responsable de celui qui a la fourche. Et tous les deux ne voulaient pas être responsables. Donc, ils lui disent non, à toi le fusil, à toi la fourche. Enfin, finalement, ce fusil servait à accrocher la laisse de la chèvre. Et puis après, un hélicoptère qui arrive, et puis ils font fuir l'hélicoptère. Il y en a un des deux qui se bat avec une fourche qui empêche, au bout d'une fourche, d'atterrir l'hélicoptère. Et puis, ils redeviennent eux-mêmes, et puis voilà. C'est une très belle histoire.
On va terminer avec la musique. Une dernière question. Moi, je vous ai vu au Festival Mimi en 1999 avec Joseph Racaille. Le nom du groupe, si je me trompe, c'était Le Brame des Fous. J'aimais beaucoup cet intitulé. Comment vous aviez rencontré Joseph Racaille et puis pourquoi il n'y a pas eu de suite? C'est quand même un peu dommage.
Alors, ça, c'était aussi très compliqué. Non, pas compliqué. Alors, Joseph Racaille, je connaissais Jouk Minor, qui est un saxophoniste baryton, à l'époque où je faisais du free jazz avec Portal et tout, parce que quand j'ai fait du free jazz, j'ai fait du free jazz aussi comme ça, en passant avec mon tambour, avec Bruno Girard de Bratsch, qui jouait du violon. On avait fait une soirée dans une boîte de jazz à Paris, dans le 13e, qui était connu à l'époque, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Bref, et Racaille était là. Parce que Racaille avait fait la musique d'une série télévisée sur Colette, très belle musique, sur Colette de Gérard Poitou, dans laquelle j'ai joué Brague, le mime Brague. Donc on avait sympathisé, puis on a eu l'idée de... Il m'a vu jouer du tambour, et puis l'idée de faire un spectacle, chanson, que moi je mettais en scène, j'avais un petit peu arrangé scéniquement. On avait fait une première version qui s'appelait « Musique légère sur terrain lourd », et une deuxième, Le Brame des Fous. Alors évidemment, c'est tombé à l'époque où Vraca, il y avait beaucoup de travail. Il avait fait un disque, il avait un disque chez Warner. Moi, j'arrive pas à avoir des contacts avec les producteurs de disques. Ça marche pas du tout, je sais pas pourquoi. On a existé un peu. Et puis évidemment, lui, comme il a beaucoup de travail, c'est pas pareil, parce que c'est pareil. On répétait, il fallait qu'on répète 4 jours pour mettre en train ce truc-là. C'était compliqué, quand même. Pas compliqué, mais enfin, c'était assez précis pour jouer 2 jours par mois. Puis moi, on me demandait de faire du théâtre, on ne pouvait pas culminer, c'était un peu compliqué, quoi. On est passé au Festival au Printemps de Bourg, on avait beaucoup de succès, mais il aurait fallu faire un disque et tout ça. Et puis, les gens n'étaient pas très tout à fait convaincus, les producteurs chez Warner, ça n'a pas marché. Il était chez Warner. À l'époque, il avait fait des disques, bon, et puis on l'a viré après, bon, parce que ça marchait pas, mais ça a capoté, quoi. Enfin, on s'est bien marré, mais il faut dire aussi qu'on donnait pas beaucoup de mal non plus pour vendre notre salade. Hein. Bon, ça, on va dire qu'on n'est pas non plus tout à fait au top du genre relations publiques, ça, je vais en convenir. Hein. Mais c'était pas mal. Il y avait des trucs pas mal.